de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres, le président du Vietnam a démissionné en raison des erreurs de plusieurs ministres. Population chinoise décline pour la première fois en plus de 60 ans. L'Indonésie organisera des essais pour la Coupe du Monde FIBA 2023. L'Indonésie explore la coopération en matière d'assurance, ce produit halal avec la Malaisie. Christo et Nathan se qualifient pour les quarts de finale de l'ITF M15 Jakarta. Excédent de la balance commerciale de 2022 établit le record le plus élevé. OWEF 2023, Cadine invite les investisseurs mondiaux à développer des opportunités d'investissement. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a présenté sa démission après que la partie communiste au pouvoir l'ait reconnu responsable des abus et des méfaits des fonctionnaires sous ses ordres. La nouvelle a été annoncée mardi par l'agence de presse officielle du pays, l'agence de presse du Vietnam. Phuc, 68 ans, ancien premier ministre, a occupé le poste de président en grande partie honorifique pendant moins de 2 ans. On ne sait pas encore qui le remplacera. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la démission de Phuc suite au limogeage de 2 des gouvernements. Pour être acceptée, la démission de Phuc doit être approuvée par l'Assemblée nationale. Le Vietnam n'a pas de dirigeant suprême et s'est officiellement gouverné par 4 piliers, à savoir le secrétaire du Parti communiste, le président, le premier ministre et le chef du Parlement. La population de la partie sentinentale diminue pour la première fois en 61 ans. Selon les données du gouvernement mardi, la position du pays d'Asie de l'Est est en que nation la plus peuplée du monde aurait été prise en charge par l'Inde, alors que certaines parties de la société chinoise vieillissent rapidement. La population chinoise, à l'exclusion de Taïwan, Hong Kong et Macao, sera de 850 000 habitants de moins à la fin de 2022 que l'année précédente. Selon le gouvernement, ce chiffre est inférieur à la population de l'Inde qui atteindra 1412 millions en 2022. Selon les estimations des Nations Unies, le taux de natalité en Chine en 2022 tombera à 6,77 pour 1000 habitants, contre 7,52 l'année précédente. Le taux de natalité en Chine a atteint un nouveau record depuis 1949, lorsque Mao Zedong a fondé la République populaire de Chine dirigée par les communistes. La population chinoise a vieilli en grande partie à cause de la politique de l'enfant unique introduite en 1979. Cependant, la politique a été inversée sous l'administration du président Xi Jinping en 2016 en raison des craintes croissantes qu'une population vieillissante rapide n'entrave l'expansion économique de la Chine. Effectuera un essai pour le championnat de basketball en organisant des matchs internationaux par équipe en juillet. Le président du comité de la Coupe du monde FIBA 2023, Budiastrio Jiwandono, dans sa déclaration aux journalistes du bâtiment du ministère de la Jeunesse et des Sports de Jakarta mardi 17 janvier, a expliqué qu'un essai avait été effectué pour assurer la préparation du FIBA Basketball Coupe du monde 2023 à partir de divers éléments tels que l'administration, le transport, l'hébergement, jusqu'à l'arène des compétitions. La Coupe du monde de basketball FIBA 2023 se déroulera le 25 août dans trois pays asiatiques, à savoir les Philippines, le Japon et l'Indonésie. Le gouvernement indonésien construit le Indoor Multifunction Stadium, IMS, une arène multifonctionnelle d'une capacité de 16 250 spectateurs pour la Coupe du monde de basketball dans la région de Gelora Bung Karno. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'agence organisatrice de l'assurance des produits halal, BPJPH, du ministère de la Religion, envisage une coopération avec le gouvernement malaisien pour garantir les produits halal. Citant l'agence de presse Antara mardi dans sa déclaration écrite, le chef du BPJPH, Akhil Irham, a déclaré qu'il était important de mener une coopération avec la Malaisie afin de renforcer l'écosystème halal dans l'ASEAN et dans le monde. Akhil Irham a expliqué que les accords de coopération sur les garanties de produits halal entre les pays vise à répondre à la question des obstacles techniques au commerce OTC ou des obstacles techniques ou au commerce qui sont souvent posés lors des sessions OTC de l'OMS. L'accord OTC est l'un des accords de l'OMC produit dans le cadre du cycle d'Uruguay pour réglementer l'utilisation des instruments de mesure non tarifaires MNT dans le commerce international. Le double masculin indonésien Christopher Ruangkat et Nathan Anthony Barkey ont franchi le premier obstacle du championnat international de tennis Medco Power Indonesia mardi lors du premier tour du tournoi ITF Men's World Tennis Tour M15 qui s'est déroulé au Sultan Hotel et résidence Jakarta. La quatrième tête de série a battu la paire Odian Trusher Madan, Rishi Reddy, 6-2, 6-4. Christo venait de rentrer de Bangkok après avoir participé au Nantaburi Challenger où lui, en partenariat avec l'Australien Akira Santilan. a terminé deuxième lors de la deuxième semaine. Les résultats positifs en double ont également fourni une énergie supplémentaire à Nathan Anthony Barkey au premier tour de l'épreuve en simple avec un prix total de 15 000 $ américains, soit environ 234 millions de roupies. Le joueur de tennis de 18 ans aura du mal à affronter le représentant de la Corée du Sud qui a passé le tour des qualifications, Sanui Shin, mercredi. Ensemble, les hôtes ont été impliqués dans une guerre civile lors du match d'ouverture. Pendant ce temps, Mohamed Rifki Fitriadi défiera le 7e tête de série Niki Kalyanda Ponaka de l'Inde. Le ministre indonésien du commerce Zulkifli Hasan a déclaré que la valeur de la balance commerciale de l'Indonésie en 2022 a atteint le record le plus élevé avec un excédent de 54,46 milliards de dollars américains. Zulkifli, lors de son émission officielle Jakarta mardi, a déclaré qu'à la fin 2022, la balance commerciale de l'Indonésie a de nouveau enregistré un excédent. Un excédent en décembre 2022 de 3,89 milliards de dollars américains. L'excédent s'est composé d'un commerce non pétrolier et gazier de 5,61 milliards de dollars américains et d'un déficit commercial pétrolier et gazier de 1,73 milliards de dollars américains. Cet excédent poursuit la tendance du 32e excédent mensuel consécutif depuis mai 2020. L'excédent commercial a été contribué par plusieurs des principaux pays partenaires commerciaux de l'Indonésie. Les États-Unis ont été le principal contributeur à l'excédent avec une valeur de 1,11 milliard de dollars américains, suivi de l'Inde avec 0,98 milliards de dollars américains et des Philippines avec 0,87 milliards de dollars américains. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie indonésienne, Kadin Arshad Rashid, invite les investisseurs mondiaux à participer au développement des opportunités d'investissement en Indonésie grâce à la tenue du pavillon indonésien, qui coïncide avec une série d'activités de la réunion annuelle du Forum économique mondial WEF à Davos, Suisse, du 16 au janvier 2023. Arshad a souligné la nécessité de la collaboration de nombreuses parties, y compris le gouvernement, les chefs de file de l'industrie, les associations, les organisations communautaires et les investisseurs pour faire progresser l'économie indonésienne. Dans un communiqué à Jakarta mardi 17 janvier, Arshad a déclaré que les opportunités d'investissement offertes pendant la période du pavillon indonésien comprenaient des opportunités d'investissement dans l'économie verte, en aval des entreprises numériques dans le secteur de la santé, le secteur de la technologie financière, ainsi que des opportunités d'investissement dans l'IKN, Nusantara. Il a également ajouté que cette année, l'Indonésie s'était également dû confier la présidence de l'ASEAN 2023 et que la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne continuerait d'intensifier les promotions de commerce et d'industrie indonésienne continuerait d'investir les pronoms pour les investisseurs pendant la période de présentation du conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN en 2023. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Consignes optimistes et vigilantes dans la gestion du budget de l'État 2023 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le président Joko Widodo et ses ministres se sont réunis lundi 16 janvier lors de la première réunion plénière du cabinet en 2023. Dans ses remarques à l'ouverture de la session, le président Joko Widodo a demandé à son personnel de rester optimiste dans la gestion du budget des recettes et des dépenses de l'État, APBN, de cette année. Cet optimisme doit cependant s'accompagner de vigilance. La situation économique mondiale cette année sera un défi avec de nombreux pays qui devrait connaître une récession. Le message du président a été transmis par la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, dans un communiqué de presse après la réunion plénière du cabinet qui a également été publié sur le site président.ri.go.id. Le gouvernement a de bonnes raisons d'adopter une combinaison d'optimisme et de vigilance dans la gestion de l'économie cette année. L'Indonésie est optimiste parce que l'année dernière, la performance économique de l'Indonésie a été positive. Il s'agit notamment du renforcement de la reprise économique d'un secteur stratégique en pleine expansion, d'une amélioration de la performance, de la consommation, de l'investissement et de la balance commerciale, d'un taux d'inflation modéré et d'une performance très positive dans le budget de l'État 2022. En fait, selon Sri Mulyani, le déficit du budget de l'État en 2022 est relativement inférieur à celui des pays du G20 et de l'Asie du Sud-Est ou de l'ASEAN. Cependant, le gouvernement doit également être vigilant dans la gestion du budget de l'État compte tenu du risque élevé d'incertitude. Cela comprend le ralentissement économique mondial, les tensions géopolitiques qui ont perturbé l'offre de nourriture et d'énergie, le resserrement agressif de la politique monétaire mondiale et les effets cicatriciels dû à la pandémie de COVID-19. Optimisme et vigilance sont deux attitudes dont doivent faire preuve pas seulement les responsables économiques, en l'occurrence le gouvernement, mais aussi l'ensemble du peuple indonésien. Une attitude optimiste peut être démontrée en continuant à travailler dur, tandis qu'être alerte peut être fait en étant frugal et en gérant judicieusement les dépenses. La vigilance ne concerne pas seulement ce qui se passe là-bas. Sur le plan intérieur, la vigilance dans la gestion de l'économie s'exerce avec un contrôle strict de l'utilisation du budget de l'État et la prévention de la corruption. Il a été provoqué que la corruption sous ses diverses formes détruit les fondements de l'économie dans divers pays. Même pour l'Indonésie, ce qui doit être particulièrement surveillé au niveau national, c'est la corruption. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 18 janvier 1919, le début de la conférence de paix de Paris. 18 janvier 1919 est une conférence de paix historique commencée au château de Versailles à Paris en France. La conférence a été participée par les représentants de 27 pays du monde et dirigée par le premier ministre français à l'époque, Georges Clemenceau. Dans cette conférence, on a signé traité de Versailles qui contient entre autres des commandes pour l'Allemagne perdues pendant la Première Guerre mondiale afin de payer des réparations de guerre qui sont très grandes et transfert d'une partie du territoire qui a été occupé aux pays alliés. La conférence a également discuté de la création de la Ligue des Nations. Passons maintenant à l'événement du 18 janvier 2000. La météorite est tombée au Canada près du lac Tagish. Une roche de l'espace, ou communément appelée un météore, tombant dans le lac Tagish, Canada, le 18 janvier 2000. Lorsque l'incident, les résidents locaux ont vu la lumière comme une étoile filante dans le lac qui a été suivi l'explosion. Les sections locales ont ensuite été approchées du lieu autour du lac Tagish. Certains scientifiques, à la fois localement et internationalement, de faire des recherches sur les objets spatiaux qui sont en baisse. Après des études à la météorite du lac Tagish, l'équipe des scientifiques de l'Université de Tohoku au Japon a conclu que la plupart du contenu en eau de la Terre provient de la collision avec l'astéroïde il y a 4,6 milliards d'années. Les roches provenaient d'un astéroïde qui est sur le point entre Mars et Jupiter. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement du 18 janvier 2002, fin de la guerre en Sierra Leone. La guerre civile en Sierra Leone était une guerre civile en Sierra Leone qui a duré 11 ans entre 1991 et 2002 et a fait plus de 50 000 morts. Cette guerre a commencé le 23 mars 1991 lorsque le Front révolutionnaire uni RUF avec le soutien des forces spéciales du Front patriotique national du Liberia, NPFL, sous la direction de Charles Taylor, a lancé une attaque contre le gouvernement dans le but de renverser le gouvernement de Joseph Momo. La guerre est officiellement déclarée terminée par le président Ahmad Tejan Kabah le 18 janvier 2002. C'est Jonathan, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Bugs keep bugging, trips keep tripping, grass keep falling, but don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around and round. Keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And not losing control. Don't ever lose yourself. Prevention. Oh.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir, voici mon Indonésie et pour le titre, le président demande que le budget de l'État 2023 se concentre sur l'emploi et la réduction de la pauvreté. Le président Jokowi a demandé à tous les rangs ministériels du cabinet de travail de concentrer le budget des recettes et des dépenses de l'État, APBN 2023, sur les activités productives, en particulier dans la création d'emplois. Cette demande a été transmise par le président lors d'une réunion plénière du cabinet au Palais Merdeka à Jakarta lundi le 16 janvier dernier. Le président Jokowi a expliqué qu'en plus des programmes productifs, le budget de l'État 2023 est également axé sur l'achèvement des programmes prioritaires nationaux tels que la réduction des taux de retard de croissance, la réduction de l'extrême pauvreté et l'agenda avant les élections de 2024. Le président a demandé que les ministères concernés soient en mesure d'encourager les gouvernements régionaux à utiliser les fonds de village pour stimuler l'économie régionale. Il a averti que les fonds transférés devraient avoir pour effet de stimuler l'économie de la région. Le chef de l'État a souligné que l'utilisation du budget régional des recettes et des dépenses, APBD, doit être en phase avec l'APBN qui se concentre sur les programmes nationaux prioritaires tels que l'économie populaire, les exportations et l'investissement. Dans son allocution d'ouverture de la session plénière du cabinet, le président Jokowi a présenté une évaluation de l'économie nationale de 2022. Selon le président, de nombreuses réalisations positives se sont produites au milieu des pressions extérieures au cours de l'année turbulente de 2022, telles que la croissance économique qui est estimée à environ 5,2 à 5,3%, à l'inflation qui peut encore être contrôlée au niveau de 5,5%. Le président considère que 2023 ne sera pas non plus une année facile, car un certain nombre de grands pays connaissent des ralentissements économiques tels que l'Union européenne, la Chine et les États-Unis en raison d'une pression géopolitique croissante, alors que les exportations de l'Indonésie vers ces pays sont très grandes. Après la session plénière du cabinet, la ministre des Finances Sri Mulyani a révélé aux médias les plans de dépenses importantes dans la PBN, notamment des dépenses pour la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la protection sociale et les dépenses pour les étapes électorales de 2024. Selon Sri Mulyani, on espère que le plan de dépenses importantes pour 2023 protégera l'économie indonésienne de la menace de choc qui se produit du côté mondial, à la fois en raison de la hausse des prix, de l'inflation et de l'affaiblissement de l'économie d'autres pays. C'était mon Indonésie pour ce soir.
Tak bergumam. sadar di rumahlah kau kembali.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, si vous voulez voir la diversité des espèces d'oiseaux à Banten en voyage à Pulau Dua ou Pulau Burung et le Bon Choix. Pulau Dua ou Pulau Burung est une réserve naturelle située administrativement dans le village de Sawaluhur, le district de Kasemen, Serang, en province de Banten. La distance n'est pas loin du centre-ville, à seulement environ 30 km de la ville de Serang. Lorsque vous arrivez pour la première fois à cet endroit, vous pourriez être surpris de savoir pourquoi il s'appelle Pulau ou en français signifie « île ». Même si le continent n'est pas séparé. Il s'avère que dans le passé, l'île aux oiseaux était une île séparée de Java, séparée par un détroit de 500 mètres de large. Lorsque les vagues se retirent, les deux continents fusionnent. Pulau Dua ou également connu sous le nom de l'île aux oiseaux a un charme unique par rapport aux autres objets touristiques. L'unicité et la beauté en champ terrestre du monde sous-marin. De magnifiques crabes de coraux, divers types de poissons marins et divers types d'oiseaux se trouvent sur cette île. Cette île a une superficie d'environ 30 hectares. Chaque avril et août, cette île sera visitée à par environ 1000 espèces d'oiseaux. Une étendue de palétuviers et le chant des oiseaux vous accueilleront à votre arrivée sur cette île. De face, cette île ressemble à une petite forêt luxuriante sur la plage. Cette zone de réserve naturelle de l'île aux oiseaux possède un écosystème de plantes tropicales avec une côte. Chers auditeurs, accéder à cet endroit n'est pas difficile. Il vous suffit de vous rendre au village de Sawaluhur, le district de Kasemen, Serang, Banten. Les directions ne sont pas claires, mais les habitants connaissent Pulau Burung. Vous pouvez demander aux riverains car ils se feront un plaisir de vous donner les indications pour rejoindre cet objet touristique. Bonnes vacances! Bon, chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
selalu berarti. Sentuhan tak akan terganti. Di sampingmu semua bisa ku lalui. Ku kan datang saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Selama satu bulan. Selama satu bulan. Pendant un mois. Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Selama satu bulan. Selama satu bulan. En français, pendant un mois. Cette conversation se déroule entre le touriste indien Dev Singh et l'agent d'immigration. Bonne écoute.
Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia?
Saya akan tinggal selama satu bulan.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Selama satu bulan, pendant un mois. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Saya akan tinggal. Saya akan tinggal. Je vais rester. Selama satu bulan. Selama satu bulan, pendant un mois. Satu bulan, un mois. Saya akan tinggal, je vais rester. Selama satu bulan, pendant un mois. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Saya akan tinggal selama satu bulan ».« Saya akan tinggal selama satu bulan ». En français, « Je vais rester un mois ». Dans cette phrase, il y a l'expression « Selama satu bulan ». En français, «
pendant un mois. La phrase selama satu bulan, pendant un mois, utilisée pour indiquer la durée du séjour. Pour exprimer la durée du séjour, vous pouvez utiliser d'autres unités de temps telles que des jours, des semaines et des années. Maintenant, écoutons la conversation pour exprimer la durée du séjour. Berapa lama Anda akan tinggal di Labuan Bajo? Berapa lama Anda akan tinggal di Labuan Bajo? Combien de temps allez-vous rester à Labuan Bajo? Saya akan tinggal selama 2 minggu. Saya akan tinggal selama 2 minggu. En français, je vais rester 2 semaines. Berapa lama Anda akan menginap di Yogyakarta? Berapa lama Anda akan menginap di Yogyakarta? En français, combien de temps allez-vous rester à Yogyakarta? Saya akan menginap selama 3 hari. Saya akan menginap selama 3 hari. En français, je resterai 3 jours. Chers auditeurs, en plus des unités de temps comme jam, heure, hari, jour, minggu, semaine, bulan, mois, et tahun, année, en indonésien, on connaît l'unité de temps, semestre, pendant 6 mois. Décade, décennie. 10 ans. Et abad, siècle, 7 ans. Chers auditeurs, avant de terminer à apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia?
Saya akan tinggal selama 1 bulan.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Dibesarkan di negeri yang mengagumkan, beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi, tempat di mana kita selalu. Sama.
lihatlah kekayaan alamnya. Oh indahnya Indonesia, jika kita menjaganya bersama.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Sumatra occidentale intitulée Kambanglah Bungo. Chers amis, la chanson Kambanglah Bungo a été composée par Sofiane Naan et popularisée par Oslan Hussein dans les années 1960. Cette chanson parle du peuple Minangkabau dont la culture ne cesse de croître. Les paroles mentionnent également l'une des danses traditionnelles, à savoir la danse Simambang, et une maison traditionnelle typique de l'ouest de Sumatra, à savoir Rumah Gadang. Bon, chers auditeurs, voici Alan va chanter une chanson de Sumatra occidentale intitulée Kambanglah Bungo. Bonne écoute.
Kambanglah bungo para witan
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.